Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les nuits de France Culture.
Qu'est-ce qui freine la croissance des plantes et la marche des fourmis? Qu'est-ce qui ralentit le rythme cardiaque, endort certains organismes vivants, parfois pendant plusieurs mois? Qu'est-ce qui permet la conservation des organes vitaux, provoquant une révolution dans le domaine de la chirurgie et des greffes? C'est bien sûr le froid. Objet de science et d'expérience en tout genre depuis toujours, le XXe siècle marque un tournant dans notre utilisation et notre maîtrise du froid. Le procédé de la lyophilisation, par exemple, découvert en 1906, a permis de sauver la vie d'innombrables soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale, grâce à des pochettes de sang lyophilisé. Le sang est congelé, et donc plus facile à conserver et transporter sur le champ de bataille. Mais c'est surtout dans le travail autour des organes vitaux que le XXe siècle apporte des innovations qui semblent relever du miracle. Jean Rostand découvre par exemple en 1946 qu'il est possible de congeler un organe sans l'abîmer, grâce à l'utilisation de la glycérine, qui protège les tissus de l'effet du froid. Les retombées pratiques, notamment dans le domaine de la médecine et de la chirurgie, sont évidemment immenses, et de nouvelles portes s'ouvrent pour celles et ceux qui nécessitent des greffes. Ce numéro du Progrès et la vie de Paul Sarès, réalisé par Paul Castan, s'ouvre justement sur une expérience spectaculaire. Un cœur d'embryon de poulet est congelé, puis décongelé, avant de le faire battre à nouveau, le froid faisant du scientifique un véritable thaumaturge des temps modernes. C'est ici le professeur et docteur Louis Ray qui nous reçoit dans le laboratoire de physiologie animale de l'École normale supérieure, afin de guider les auditrices et les auditeurs à travers les applications du froid en biologie et en médecine. Une émission diffusée pour la première fois le 22 avril 1959 sur France 1, Paris Inter.
Pour tous ceux qu'intéresse le prodigieux développement scientifique actuel, dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici réalisé par Paul Castan une émission de Paul Sarès, Le Progrès et la vie. Ce soir, Paul Sarès va se rendre dans les laboratoires de physiologie de l'École normale supérieure pour interviewer le docteur Ray, physiologiste français, dont les travaux sur l'utilisation du froid en biologie et en médecine font autorité dans le monde.
Nous sommes dans le laboratoire de physiologie animale de l'École normale supérieure. Vous entendez en ce moment les battements d'un cœur d'embryon de poulet qui, après avoir été congelé à moins 196 degrés, a été conservé pendant plusieurs semaines à moins 80 degrés. Le cœur vient de se remettre à battre. Vous nous expliquerez tout à l'heure, docteur, comment et pourquoi vous avez réalisé cette sensationnelle expérience. Mais auparavant, voulez-vous nous rappeler dans quelles conditions le froid a été appliqué dans les domaines les plus variés de la biologie et de la médecine?
Eh bien, vous savez qu'il est connu depuis fort longtemps que le froid conserve les substances altérables, et en particulier les substances biologiques, qui contenant beaucoup d'eau sont évidemment très soumises aux altérations dues à la température.
Les études relatives aux effets du froid sur les organismes vivants sont d'ailleurs assez anciennes.
Oh oui, puisqu'il faut remonter à Réaumur et à Spallanzani au XVIIIe siècle pour avoir déjà des expériences sérieuses sur les effets biologiques du froid. Mais c'est principalement au cours du XIXe et du XXe siècle qu'ont été faits les plus grands progrès dans la biologie du froid.
Si les bienfaits du froid sont connus depuis peu, ces méfaits se sont hélas manifestés depuis toujours. Les rigueurs de l'hiver russe n'ont-ils pas décimé la grande armée de Napoléon ?
Eh bien, ma foi, oui, et il ne faut pas remonter très loin dans l'histoire pour trouver des cas extrêmement fâcheux, puisque, encore récemment, au cours de la guerre de Corée, plus de 6000 hommes dans les troupes américaines ont été victimes du froid, avec des gelures très graves. Au cours de la dernière guerre mondiale, on chiffre par millions le nombre d'individus qui ont été frappés par le froid, aussi bien dans les troupes allemandes que dans les troupes russes. Et il ne faudrait pas croire que ce soit uniquement en des temps de guerre où il y a évidemment des conditions extérieures très difficiles, mais même en temps de paix dans les districts miniers du nord du Canada ou de l'Alaska, il règne un froid souvent de moins 30, accompagné d'un blizzard extrêmement intense, et bien entendu, les conditions de vie sont souvent très difficiles.
Et comme le froid n'est pas trop intense et trop prolongé pour provoquer la mort, quels peuvent être ses effets sur l'être vivant ?
Eh bien, comme le disait Jean Rostand, n'est-ce pas, dans une conférence récente à la faculté de médecine, le froid a tout d'abord un effet modérateur. Modérateur, il ralentit l'ensemble des phénomènes vitaux, l'ensemble des phénomènes physiologiques, aussi bien des phénomènes très visibles, comme par exemple la respiration, les battements du cœur, que des phénomènes plus difficiles à percevoir. Ainsi, le froid ralentit la marche des fourmis, ralentit la croissance des plantes. Tout ceci explique que d'une manière générale, il met en sommeil un certain nombre de grandes fonctions physiologiques.
Et c'est cet effet modérateur du froid qui est utilisé dans la technique moderne connue sous le nom de d'hibernation.
L'hibernation est au fond un phénomène naturel. Et d'ailleurs, on dit l'hibernation naturelle. C'est le sommeil des animaux qui, pendant la période hivernale, essayent d'échapper aux rigueurs de la température externe en s'endormant à l'intérieur de leur terrier. De ce fait, ils réduisent leurs besoins en nourriture, ils réduisent leurs besoins en oxygène et peuvent passer la mauvaise saison. On a essayé, et les travaux du docteur Laborie et du docteur Huguenard sont bien connus dans ce domaine, on a essayé de l'appliquer de manière thérapeutique. Et c'est ce que l'on a appelé l'hypothermie thérapeutique, improprement appelée souvent l'hibernation artificielle.
Nous avons déjà eu le plaisir de faire une émission à ce sujet avec le docteur Laborie. Mais voulez-vous nous rappeler en quelques mots les derniers résultats obtenus par l'hibernation ?
Au cours de la période d'hibernation, autrement dit d'hypothermie artificielle et thérapeutique, on abaisse la température centrale du patient, soit par des moyens purement physiques, des bains de glace par exemple, soit par des moyens pharmacodynamiques, diverses injections de certaines substances ralentissant le métabolisme, on l'abaisse jusqu'aux alentours de 26, 27, 28 degrés. Ceci peut paraître faible, mais néanmoins suffisant pour diminuer considérablement les exigences métaboliques de l'organisme. Ainsi, l'organisme peut, par exemple, supporter un arrêt de la circulation cérébrale assez long, de l'ordre de plusieurs minutes, et ceci permet de tenter des opérations intracardiaques qui nécessitent précisément un arrêt de la circulation. L'hypothermie thérapeutique peut également servir à passer des états de choc et des états de choc dangereux. Un malade qui a été fortement traumatisé peut subsister et survivre au choc grâce à un refroidissement temporaire.
Mais n'a-t-on pas essayé récemment de maintenir des organismes à des températures encore plus basses pour permettre de réduire cette activité vitale, pour prolonger ainsi le délai de sécurité pendant lequel on peut opérer, par exemple, ou on peut allonger cette période de récupération qui suit un état de choc violent ?
C'est parfaitement exact, et les travaux réalisés en particulier en Yougoslavie par les grands physiologistes Jaya et Andrews ont montré que l'on pouvait descendre à des limites très basses et voisines de 0 degré. Ainsi, par exemple, on arrive sur des animaux comme des rats ou des hamsters, qui sont des petits rongeurs de l'Europe septentrionale, à atteindre ce que l'on appelle la mort apparente. L'animal est dans un état de coma complet. Il n'y a ni mouvement respiratoire, ni battement cardiaque. Et pourtant, on peut le réanimer en faisant verser doucement de l'eau chaude sur la surface du thorax. Et en pratiquant la respiration artificielle, on peut réanimer un animal qui est resté pendant plusieurs heures, 2 ou 3 heures, dans un état de mort complète.
Et l'animal n'a pas souffert de ce refroidissement prolongé ?
L'animal n'a pas souffert dans certaines conditions. On peut évidemment le réanimer, à condition toutefois de prendre un certain nombre de précautions. Il faut que le refroidissement soit lent, qu'il soit progressif, et qu'également le réchauffement soit très progressif pour permettre aux diverses fonctions de récupérer progressivement leur déroulement normal.
Et le docteur Smith de Londres n'est-il pas allé encore plus loin dans ce domaine ?
Eh bien, la doctoresse Audrey Smith est arrivée à congeler des hamsters, c'est-à-dire à faire cristalliser plus de 50% de l'eau de leur corps. Et l'animal, je vous disais tout à l'heure, le hamster est un petit rongeur qui se présente un peu comme un rat et qui vit dans l'Europe septentrionale. L'animal est devenu tellement dur à ce moment-là que quand on le tape sur la table, il sonne comme du bois. Et si on lui met, par exemple, la tête sur le rebord d'un livre et les pattes postérieures sur le rebord d'un autre, il tient rigide comme une planche.
Et des résultats étonnants ont pu être également obtenus en chirurgie humaine. C'est ce qui ressort de la communication du professeur académicien Vladimir Negovski. directeur du laboratoire de réanimation de Moscou. Cette communication a été faite au cours de la réunion de la Commission biologique internationale du froid, qui s'est tenue, je crois, récemment à l'École normale supérieure sous votre présidence, docteur.
Le professeur Vladimir Negovski est en effet un spécialiste de la réanimation d'êtres humains. Et il a eu l'occasion, au cours de la dernière guerre mondiale, d'appliquer ses méthodes. Effectivement, à la suite de blessures très graves reçues sur le front sibérien, des soldats s'étaient effondrés avec une perte de sang quasi totale. Et tombant dans la neige, qui était très froide avec un vent intense, ils s'étaient trouvés naturellement refroidis, c'est-à-dire naturellement mis dans ces conditions d'hypothermie que nous évoquions tout à l'heure. Dans ces conditions, le professeur Negovski a pu réaliser une réanimation complète de l'individu en injectant le sang par la voie intra-artérielle à contre-courant et en faisant en même temps un massage du cœur.
Le refroidissement de l'organisme entier n'est pas la seule utilisation que l'on puisse faire du froid en biologie, en médecine. On utilise aussi ce refroidissement pour la conservation des organes.
La conservation des organes est en effet l'une des applications les plus importantes des très basses températures. Et ce grand esprit, ce grand initiateur qui était Alexis Carrel, l'avait déjà entrevu puisque dans un discours en 1912 à l'American Medical Association, il avait souligné tout l'intérêt que pourrait présenter pour le chirurgien la conservation d'organes vivants, la constitution de véritables banques de tissus et d'organes dans lesquels on pourrait puiser largement en cas de besoin. Eh bien, ces banques ont passé depuis peu du stade du rêve au stade de la réalité. Et il existe à l'heure actuelle, à Bethesda, à Washington, une banque qui est la Banque nationale de la marine américaine qui permet et qui peut envoyer aux quatre coins du monde les greffons que désirent les chirurgiens.
Et en France, docteur, de nombreux hôpitaux, je crois, ont déjà réalisé des installations qui leur permettent de stocker divers types de tissus préparés, en particulier dans votre laboratoire, des cartilages, des artères, des os, de la peau, n'est-ce pas ?
Justement, à la suite des travaux réalisés par l'équipe américaine du commandeur Hyatt, nous avons essayé en France de réaliser une institution à peu près du même ordre. Et grâce à la collaboration du service de santé des armées, nous avons précisément pu mettre ce projet à exécution. Et maintenant, dans le service de santé, nous étudions la construction d'une banque de tissus qui pourra stocker, comme vous le disiez à l'instant, divers types de tissus, aussi bien des os, des cartilages, de la peau, des cornets. Ceci est encore au stade pilote, elle n'est pas complètement constituée, mais nous avons déjà des expériences cliniques extrêmement satisfaisantes.
Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la façon dont vous obtenez cette conservation ?
La conservation peut s'obtenir de plusieurs manières. Elle peut tout d'abord être faite par congélation simple. Dans ce cas, il suffit de prendre des tissus de manière stérile, de les congeler et de les conserver à froid, à basse température pendant un certain temps. Ensuite, en les dégelant rapidement, on peut les utiliser. Généralement, ces tissus sont alors morts, c'est-à-dire que la congélation a détruit le tissu complètement au point de vue viabilité. Malgré tout, le tissu reste utilisable puisque c'est surtout sa fonction mécanique qui importe. Fonction de couverture pour de la peau, fonction de tuteur pour un os ou fonction de conduction pour une artère qui doit simplement diriger le courant sanguin. Il est une autre méthode que la congélation, car vous vous doutez bien que la congélation a un gros ennui. Il faut entretenir le froid, et entretenir le froid est toujours un problème délicat. C'est pourquoi on a essayé de trouver une méthode qui combine à la fois les avantages de la congélation, c'est-à-dire le blocage du tissu, et les avantages de la conservation à la température ordinaire, c'est la lyophilisation.
Pourriez-vous donner une précision sur ce mot technique ?
La lyophilisation, c'est un terme un peu barbare. Un terme un peu barbare qui, en français d'ailleurs, s'exprimerait plutôt sous le nom de cryodessiccation, c'est-à-dire dessiccation par le froid. Qu'entend-on exactement par ce procédé ? Eh bien, c'est une méthode qui permet, par les effets combinés du froid et du vide, de dessécher un fragment qui a été préalablement congelé. Je prends un exemple précis. On prend par exemple une artère, on va la congeler à basse température, puis quand elle sera à l'état congelé, on la met sous vide. Et sous vide, la glace contenue dans cette artère se sublime et disparaît. De ce fait-là, l'artère se dessèche. Une fois totalement desséchée, l'organe peut être conservé à la température ordinaire, dans un flacon scellé hermétiquement, et lorsqu'on veut le réemployer, il suffit d'ajouter l'eau qui lui a été extraite, et immédiatement il se reconstitue.
C'est, je crois, au regretté professeur américain Flossdorf que l'on doit le développement de cette technique.
En effet, c'est le professeur Flossdorf qui a développé la technique de lyophilisation qui a permis, il est utile de le rappeler quand même, au cours de la dernière guerre mondiale, de mettre sur tous les champs de bataille à la disposition des chirurgiens et des médecins le plasma sec qui a sauvé tant de vies humaines et, je crois, qui vraiment représentait, dans le cadre des services de santé, une innovation sensationnelle sur la Première Guerre mondiale.
Monsieur le professeur Étienne Wolff nous a précisé récemment les résultats extraordinaires qu'on a pu obtenir grâce à ces greffes, et en particulier grâce à la greffe de la peau.
La greffe de la peau, c'est un mot difficile et qu'il doit être employé avec beaucoup de précautions, car généralement, la greffe de peau n'est pas une greffe véritable, mais un pansement biologique, parfaitement adapté, il est vrai, à ses conditions d'emploi, mais qui reste quand même un pansement. C'est-à-dire que la peau, appliquée sur une surface traumatisée, brûlée par exemple, se soude aux lèvres de la plaie, demeure pendant environ 15 jours ou 3 semaines, et puis tombe. Alors me direz-vous, quel intérêt de mettre de la peau si elle tombe ? Eh bien, précisément, quand même, l'intérêt de cette couverture momentanée n'est pas négligeable. Il est triple. Tout d'abord, la peau conservée, protège la blessure de l'infection. Et vous savez que l'infection est ce qui guette le plus les brûlés. Deuxièmement, elle diminue considérablement la souffrance. Il est difficile d'imaginer quelles peuvent être les souffrances d'un grand brûlé quand on connaît déjà la douleur d'une simple brûlure à la main. Et enfin, troisièmement, elle empêche les plaies de suinter. Ces espèces d'exsudats continuels des grandes plaies sont extrêmement préjudiciables au rétablissement des bonnes fonctions organiques. Et la peau appliquée à la surface, justement, fait couverture hermétique.
Et je crois que la marine américaine s'enorgueillit à juste titre d'avoir pu sauver des brûlés à 80%.
En effet, j'ai vu à Washington, et j'ai vu au cours de remarquables communications présentées par le commandeur Hyatt et son équipe, j'ai vu des enfants qui ont été brûlés jusqu'à 80 ou 85% de la surface du corps, en particulier en tombant dans des bassines d'eau bouillante, en jouant dans la cour des fermes, et pouvoir être récupérés par une application de peau conservée. Je dois quand même vous souligner que cette application de peau conservée a lieu pendant plus de 3 ans consécutifs et qu'il a parfois été nécessaire d'utiliser la peau de plus de 30 cadavres pour sauver une seule personne.
Après la banque de tissus morts, nous en arrivons à la banque de tissus vivants et à notre fameux cœur d'embryon de poulet dont nous avons hâte de connaître l'extraordinaire histoire.
Le cœur d'embryon de poulet a certainement une histoire. Je ne sais pas si elle est extraordinaire, mais enfin, il a sa petite histoire. La conservation des tissus vivants posait un problème. On pouvait, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le simple refroidissement et la simple congélation, conserver la structure d'un organe. Conserver la vie était chose plus difficile. En effet, la congélation tuait irrémédiablement les cellules. Et il était impossible de faire revivre un organe congelé. La solution paraissait introuvable et restait mythique jusqu'au jour où, en 1946, le grand biologiste français Jean Rostand montra dans une communication à l'Académie des sciences que par addition de glycérine, on pouvait protéger un tissu contre les effets nocifs du froid. Eh bien, c'est précisément la technique de M. Jean Rostand que j'ai appliquée au cœur de l'embryon de poulet.
Mais comment la glycérine permet-elle d'éviter la mort des tissus ?
Les explications du rôle protecteur de la glycérine sont très difficiles parce qu'elles sont de l'ordre physico-chimique. Disons simplement que la glycérine, en pénétrant à l'intérieur de la cellule, empêche la formation d'une trop grande quantité de glace, permet également la cristallisation en cristaux de toute petite taille et, si vous voulez, assouplit tout l'ensemble du processus de congélation et de dégel. De ce fait-là, ce traumatisme énorme que peut représenter pour une cellule vivante l'apparition brutale de quantités importantes de glace dans son cytoplasme, cette apparition, ce traumatisme est évité précisément par la glycérine qui amortit l'ensemble du processus et permet une cristallisation lente et progressive qui n'est pas traumatisante.
Et la glycérine ne joue-t-elle pas également un rôle dans la limitation des effets nocifs de l'accumulation du sel ?
Oui, l'accumulation du sel peut paraître une chose curieuse à l'intérieur d'un tissu congelé, mais pourtant c'est la réalité. Vous avez trouvé là le joint, n'est-ce pas, de toutes les techniques de congélation. Et il est inutile de rappeler que dans un tissu, il existe une certaine quantité de sel. Et l'apparition de glace à l'intérieur, c'est de la glace pure qui se sépare. L'apparition de cette glace provoque une concentration dans les liquides qui restent, dans ces liquides interstitiels, de toutes les solutions salines. Et c'est précisément ce sel qui est nocif. La glycérine, s'interposant entre les cristaux de glace, en quelque sorte, dilue ces solutions salines et amortit, comme je vous le disais, le choc provoqué par la congélation.
Eh bien, nous voici enfin arrivés à l'expérience de l'embryon de poulet. Voulez-vous nous dire comment vous avez procédé à cette expérience ?
Eh bien, l'expérience est très simple. Vous voyez ici, dans ce petit récipient, un cœur d'embryon de poulet, un petit organe qui se présente sur environ 2-3 mm de côté, et qui a quand même déjà la forme d'un cœur. Vous pouvez vous assurer que l'on y voit des oreillettes, un ventricule. Enfin, c'est un tout petit cœur en modèle réduit, mais un cœur entier. Ce cœur, nous l'imprégnons tout d'abord dans un récipient qui contient de la glycérine. Vous voyez ici ce récipient avec un liquide contenant un indicateur coloré à l'intérieur. Et après une période d'imprégnation d'une demi-heure environ, le cœur est déposé sur ce ruban d'aluminium très fin et extrêmement sensible et souple que vous avez à côté de vous et qui est plongé dans l'air liquide directement. C'est-à-dire que le cœur, porté par une surface sans inertie thermique, ce petit ruban d'aluminium, est porté à la température de moins 196 degrés, température de l'azote liquide, en 1 à 2 secondes environ. C'est donc un traumatisme en apparence énorme. Une fois congelé dans l'azote liquide, il peut être conservé pratiquement de manière indéfinie. Et vous voyez dans ces grands récipients qui contiennent de l'azote liquide la possibilité de conserver ici des cœurs, des organes variés pendant plusieurs mois. En réalité, nous le conservons dans la neige carbonique, à moins 80. Moins 80 est encore une température bien suffisamment basse pour assurer une parfaite stabilité du tissu. Ensuite, comment réanimer ce cœur? Comment lui redonner l'activité initiale? Eh bien, nous le sortons de l'enceinte à basse température, où il est conservé, à moins 80 degrés, et nous l'immergeons brutalement dans un liquide physiologique à la température de la pièce, à plus 20 degrés. Le dégel est pratiquement instantané. Ceci est une condition primordiale de la méthode. Il se trouve que la période de dégel est beaucoup plus traumatisante que la période de congélation. Dans ces conditions, lorsque le cœur a été dégelé très rapidement, il peut être mis en culture et ainsi apparaît comme celui que vous voyez là sous ce microscope binoculaire.
Eh bien, en effet, je vais me pencher maintenant sur ce microscope et je peux vous dire qu'on voit un petit cœur de poulet qui se présente comme une sorte de petit organe presque transparent et dont on sent, dont vous écoutez en ce moment chaque battement qui correspond à une sorte de contraction et à une détente.
En effet, vous voyez à la surface du cœur, ici, deux très fines électrodes, qui sont des électrodes en or, et qui, reliées à notre dispositif d'amplification, vous permettent, en cet instant même, d'écouter le son du cœur. Je dois bien dire, l'image sonore de son impulsion électrique. C'est un peu difficile, mais le cœur n'émet que des infrasons qui ne seraient pas audibles directement. Aussi, c'est l'influx électrique que j'ai transformé par cet amplificateur basse fréquence en influx sonore que vous pouvez suivre pour le moment.
Et quel a été le degré de l'amplification?
L'amplification du son est ici de l'ordre de 1 million de fois environ.
Est-ce exact que les Américains aient réussi la greffe d'un cœur congelé sur un chien?
Les Américains, en effet, à l'hôpital de Boston, ont réussi à greffer sur un chien un cœur qui avait été congelé à la température de moins 8. Ceci n'est peut-être pas une très basse température, mais représente déjà un très bel exploit physiologique et l'on peut attendre beaucoup de la technique de congélation de cœurs de grande taille sur des organismes adultes.
Est-ce qu'on réussira, en poussant la méthode, à endormir, si on veut, des organismes entiers?
Le congrès, le dernier congrès de médecine aéronautique, et on peut dire de médecine sidérale, si on me permet l'expression, qui s'est tenu à Londres il y a quelque temps, a émis l'hypothèse, pour ne pas dire le vœu, que l'on puisse un jour envoyer dans les navires spatiaux des individus entiers, des individus humains à l'état congelé. C'est peut-être là quand même une vue utopique, parce que la congélation d'un être entier ne présenterait pas, du moins du point de vue physiologique et médical, des avantages certains. Mais l'on peut dire qu'il sera possible, certainement, de les refroidir à des températures très basses. Et à ce moment-là, l'organisme refroidi aux alentours de 0 degré, par exemple, dans cet état de mort apparente dont nous parlions, peut subir sans danger des irradiations très fortes et franchir ces fameuses ceintures de radiation qui doivent entourer la Terre, au dire des physiciens, et qui seraient un obstacle à la navigation cosmique.
Eh bien, merci docteur. Et maintenant, laissons courir notre imagination. Rêvons à un monde merveilleux où, grâce au froid, les hommes pourront oublier leurs soucis, leurs fatigues, leurs douleurs, dans une hibernation prolongée réparatrice. Et comme vous le disiez tout à l'heure, où les pionniers de l'aventure, congelés, desséchés, pourront peut-être défier les siècles et franchir ainsi, sans vieillir, les espaces intersidéraux pour se réveiller frais et dispos à destination.
Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser sur l'entretien de ce soir. ou sur tout autre sujet scientifique d'actualité. Écrivez à la Radiodiffusion Télévision Française, émission Le Progrès et la Vie, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. C'était réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie, consacrée ce soir à l'utilisation du froid en biologie et en médecine, avec la participation du docteur Ray.
C'était Le froid en biologie et en médecine, un numéro du Progrès et la Vie de Paul Sarès, réalisé par Paul Castan, avec le biologiste Louis Ray, dans les laboratoires de l'École normale supérieure. Une émission diffusée pour la première fois le 22 avril 1959 sur France 1 Paris Inter.